Laudetur Jesus Christus.
Prêtres réunis dans la basilique Saint-Pierre pour la messe chrismale. Dans son homélie lue ce matin, le pape François a exhorté les fidèles à prier pour la joie des prêtres. On y revient juste après les titres. 37 Palestiniens tués dans de nouvelles frappes israéliennes à Gaza. La moitié sont des femmes et des enfants. Au-delà des bombardements, la famine est également utilisée comme arme de guerre. Nous entendrons un représentant d'Oxfam France dans ce journal. Mission délicate pour Giorgia Meloni attendue à Washington ce jeudi. Première dirigeante européenne à rencontrer Donald Trump depuis le début de l'offensive commerciale américaine. Et puis la Guinée sur la voie de la transition. Le coup d'envoi des opérations de recensement essentielles pour la création du fichier électoral a été lancé par les autorités.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. La messe chrismale de ce jeudi matin a été présidée dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal Calgagno, préfet émérite de l'administration du patrimoine du siège apostolique et délégué du pape François, toujours convalescent pour cette célébration. Mais c'est bien l'homélie du souverain pontife qui a été lue, une homélie dans laquelle François revient sur le sens de la promesse sacerdotale et de la mission des prêtres dans le monde au cœur de cette célébration. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
En renouvelant nos promesses d'ordination le jeudi saint, nous confessons que nous ne pouvons la lire qu'en Jésus de Nazareth, a expliqué le pape. Lorsque nous nous laissons instruire par lui, notre ministère devient un ministère d'espérance, car dans chacune de nos histoires, Dieu ouvre un jubilé, c'est-à-dire un temps et une oasis de grâce. Jésus nous apprend combien il fait de nous des prêtres pour le peuple de Dieu, lit-on encore dans cette homélie. L'année jubilaire en cours est donc une invitation à se convertir une nouvelle fois dans cette mission sacerdotale, être des pèlerins de l'espérance pour sortir du cléricalisme et devenir des héros de l'espérance, a relevé François. Le jubilé, a-t-il insisté, ne doit pas être célébré une fois tous les 25 ans, mais réside dans cette proximité quotidienne du prêtre avec son peuple. François a ainsi exhorté les prêtres à revenir aux pages de la Bible, au plus près de la parole, et face aux difficultés de la mission sacerdotale, les a enjoints à bannir le désespoir, car Dieu est à l'œuvre et ne faillit jamais. En allégeant le fardeau qui pèse sur nos épaules, en annonçant la bonne nouvelle aux pauvres, la liberté aux captifs, le sacerdoce devient un ministère jubilaire, a encore expliqué le pape, qui a exhorté les fidèles à prier pour la joie des prêtres pour qu'ils puissent faire face à leur mission dans le monde.
Un compte-rendu signé Olivier Bonnel. Et puis ce soir à 18h, c'est la messe de la scène du Seigneur qui sera célébrée à l'hôtel de la chaire de Saint-Pierre, ouvrant officiellement le Triduum Pascal. La messe sera présidée par l'archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, le cardinal franciscain Mauro Gambetti. Vous pourrez la suivre en direct commentée en français sur Vatican News. Dans un message de Pâques adressé à ses fidèles hier, le patriarche latin de Jérusalem a exhorté à vaincre la haine, la peur, les frustrations et à célébrer la résurrection comme un devoir et non un droit. Nous devons annoncer par notre vie, par nos gestes, que nous appartenons à la puissance, à l'amour puissant de Dieu en Jésus, a rappelé le cardinal Pierre Battista Pizzaballa. Dans la bande de Gaza, de nouveaux bombardements israéliens ont fait au moins 37 morts ce jeudi, selon la défense civile locale. Les missiles se sont abattus sur plusieurs tentes abritant des familles déplacées dans la zone d'Al-Mawasi, dans la région de Khan Younes au sud. Au nord comme au sud de l'enclave, cela fait depuis le 2 mars que l'aide humanitaire ne rentre plus et une entrée prochaine est complètement exclue par le ministre israélien de la Défense. Le mouvement islamiste palestinien Hamas accuse Israël d'utiliser la famine comme arme de guerre contre la population, un constat maintes fois répété par les ONG humanitaires depuis le début du conflit. Mais la situation atteint un niveau de gravité sans précédent. Louis-Nicolas Jandot, responsable plaidoyer campagne humanitaire d'Oxfam France. On l'écoute.
Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 60 000 enfants qui ont besoin de traitement médical pour faire face à la malnutrition, ce qui est absolument énorme. Un facteur absolument inédit aujourd'hui dans la crise qu'on traverse à Gaza, c'est le fait qu'en fait, l'intégralité d'une population sur un même territoire fait face à une crise de la faim absolument catastrophique. On observe, vu le comportement aujourd'hui des autorités israéliennes, qu'il y a une utilisation de la faim comme arme de guerre. Nous, on est même allé plus loin dans l'analyse en mettant en exergue que c'était l'eau également était utilisée comme arme de guerre. On a publié un rapport en juillet dernier qui mettait en évidence le fait que certaines infrastructures d'eau étaient directement ciblées par l'armée israélienne. forcément, vu l'état de dévastation sur le territoire gazaoui actuellement, envisager la mise en place de cultures basiques, etc., c'est absolument impossible. Et donc, si en plus, il n'y a pas le moindre camion d'aide qui rentre sur le territoire gazaoui, c'est la preuve qu'aujourd'hui, l'accès à la nourriture est volontairement réduit à son plus bas niveau possible.
Louis-Nicolas Jandot d'Oxfam France, et parallèlement le mouvement palestinien est sur le point de remettre sa réponse à une proposition israélienne de trêve, proposition transmise par le médiateur égyptien. Le président américain Donald Trump aurait dissuadé Israël de frapper des sites nucléaires iraniens. C'est ce que rapporte le New York Times, selon le quotidien, qui cite des sources anonymes au sein de l'administration américaine. Israël prévoyait d'attaquer l'Iran en mai pour l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire et espérer le soutien des États-Unis. Mais Donald Trump a opté pour la voie diplomatique. Et les prochains pourparlers entre Washington et Téhéran auront lieu ce samedi à Rome. En attendant, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, chargé de surveiller la progression du programme nucléaire iranien, se rend à Téhéran ce jeudi. Il doit rencontrer son homologue iranien. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est lui arrivé à Paris pour des discussions avec le président Emmanuel Macron sur le conflit en Ukraine, alors que les pourparlers menés par Washington avec Moscou en vue d'une trêve patinent. De l'autre côté de l'océan Atlantique, la chef du gouvernement italien est attendue à Washington ce jeudi. Giorgia Meloni est la première dirigeante européenne à rencontrer Donald Trump depuis le début de l'offensive commerciale américaine. Un déplacement à la fois pour instaurer le dialogue au nom des Européens, mais aussi défendre les lourds intérêts italien à Rome, Blandine Hugonnet.
Giorgia Meloni met sa casquette d'intermédiaire direction la Maison-Blanche, pressée de ne pas rater la fenêtre ouverte par la suspension des 20% de droits de douane pendant 90 jours par Donald Trump. Pas épargnée, l'Italie compte sur ses liens privilégiés avec le conservateur américain pour débloquer les relations commerciales des deux continents. C'est l'objectif affiché par Rome et confirmé par Bruxelles. Ce premier tête-à-tête d'un dirigeant européen depuis la mise en œuvre du protectionnisme américain est soutenu, du moins coordonné par Ursula von der Leyen, en contact permanent avec l'envoyée italienne censée parler au nom des 27. Elles ne se sentent pas pour autant sous pression, confie Giorgia Meloni, qui n'en oublie pas les intérêts italiens. Au contraire, Rome risque gros. Les Américains sont les premiers clients des exportations de la botte en dehors de l'Union européenne. Un marché de 67 milliards d'euros que l'italienne va défendre dans le bureau ovale. Rien n'a été dévoilé de son plan d'attaque, mais ambitieuse, la souverainiste devrait proposer de remettre à zéro les tarifs douaniers entre les deux côtés de l'Atlantique. En Italie, l'opposition de gauche persifle. À jouer cavalier seul, Giorgia Meloni divise l'Union européenne et pourra difficilement rendre entrée de Washington en ayant accompli un miracle pour les Européens. À Rome, Blandine Hugonnet pour Radio Vatican.
Direction la Guinée à présent, où les opérations d'enrôlement biométrique des citoyens ont démarré. C'est une étape cruciale dans la constitution du fichier électoral en vue du référendum constitutionnel et des élections politiques. Quelques difficultés sont cependant notées dans les différentes communes, comme nous l'explique notre correspondant Emmanuel Milimono.
C'est un grand jour pour les citoyens qui aspirent tant à se rendre aux urnes pour le retour du pays à l'ordre démocratique, d'où l'engouement noté devant les centres d'enrôlement biométrique qui ont été ouverts depuis ce mardi. Des opérateurs de saisie procèdent au contrôle des documents à fournir en vue de se faire recenser sur la liste électorale. Pour ceux qui les ont au complet, les données de filiation sont saisies dans la machine, puis des empreintes sont prélevées et des photos sont prises pour compléter l'enrôlement. Le recensement en cours concerne les personnes de 10 ans et plus, représente le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, recensement duquel découlera le fichier électoral et bien d'autres données. Quelques difficultés sont cependant signalées. Certains centres que nous avons visités refoulent du monde. En cause, le nombre de kits et d'agents recenseurs insuffisant pour répondre à la demande. Selon la Direction nationale des affaires politiques et des élections, 6000 kits ont été achetés et seront déployés progressivement dans toutes les circonscriptions à l'intérieur du pays et dans les ambassades. Emmanuel Milimono-Conakry pour Radio Vatican.
Et la date du référendum constitutionnel est fixée au 21 septembre prochain. Des élections générales pourraient avoir lieu dans la foulée. Il y a 200 ans, la France reconnaissait l'indépendance d'Haïti, une reconnaissance obtenue le 17 avril 1825 en échange d'une lourde dette de 150 millions de francs d'or d'indemnité aux anciens propriétaires de terres et d'esclaves. Emmanuel Macron doit reconnaître ce jeudi une forme d'injustice initiale imposée à Haïti et lancer un travail de mémoire pour évaluer l'impact de cette indemnité sur le développement d'Haïti, ce qui pourrait déboucher sur des réparations financières. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. L'actualité en langue française revient à 18h heure de Rome. Vous serez en compagnie de Delphine Allaire. D'ici là, bel après-midi à toutes et à tous.